30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir Nathalie Barger, Chérubin Dorcil en direct à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique, les grands points de l'actualité.
Pour la première fois depuis l'indépendance, la Tunisie a un chef d'État élu démocratiquement. Caïb Essebsi a prêté serment aujourd'hui.
Yahya Jammeh regagne la Gambie après une apparente tentative de coup d'État contre son gouvernement.
Vers un dialogue politique en Centrafrique, deux anciens dirigeants, François Bozizé et l'homme qui l'a renversé, Michel Diotto Dia, se rencontrent à Nairobi, au Kenya.
Au lendemain d'un échec au Conseil de sécurité, l'autorité palestinienne poursuit l'adhésion à la Cour pénale internationale.
Et comme d'habitude, l'économie, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
En Tunisie, Béji Caïd Essebsi a prêté serment en tant que nouveau président. Il est le premier chef d'État tunisien démocratiquement élu depuis l'indépendance en 1956. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Essebsi a prêté serment au cours d'une cérémonie au Parlement où son parti Nida Tounes a raflé la majorité des sièges lors des législatives d'octobre. Le nouveau président de la Tunisie, âgé de 88 ans, a remporté l'élection présidentielle au deuxième tour en battant dans un duel historique Moncef Marzouki, le président intérimaire depuis l'éviction de Zine El Abidine Ben Ali en 2011. Monsieur Essebsi s'est engagé à aller de l'avant avec une Tunisie unie et a dit qu'il espère que son élection va marquer le début d'un renouveau pour le pays. Il a servi comme premier ministre en 2011 et a été ministre des Affaires étrangères du premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba.
Le président gambien Yahya Jammeh est de retour dans son pays au lendemain de ce que d'aucuns présentent comme une tentative de coup d'État. Précision Michel Joseph.
Les forces de sécurité ont quadrillé Banjul, la capitale, après avoir repoussé hier une attaque armée contre la présidence. La situation était calme aujourd'hui dans la capitale gambienne, selon des habitants. Des sources diplomatiques rapportent que 4 assaillants ont été tués dans la fusillade d'hier. Des analystes et les médias locaux que cite l'agence Reuters affirment que les assaillants comptaient dans leur rang Lamine Sané, un ancien chef de la garde présidentielle gambienne, de même qu'un réserviste de l'armée américaine ayant la double nationalité. Washington n'a joué aucun rôle dans les incidents de Banjul, a tenu à préciser aux journalistes un haut responsable du département d'État américain. Réagissant aux événements en Gambie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réclamé une enquête à la demande du Tchad, qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci. La situation en Gambie a fait l'objet de discussions à huis clos au sein du Conseil.
Nigeria, à 6 semaines des élections présidentielles et législatives, le parti d'opposition, le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, a vivement critiqué le gouvernement dans un message de vœux, rapporte l'AFP. Le parti de Mohamed Bouhari, qui affrontera le président sortant Goodluck Jonathan le 14 février, accuse le gouvernement d'instrumentaliser les forces de sécurité dans le but de décapiter l'opposition, selon ses termes. Selon l'APC, le gouvernement a ordonné aux services secrets et à la police de s'en prendre aux opposants. De son côté, le président nigérien a promis que les élections seraient libres, justes, crédibles et acceptables.
À Bukavu, dans le sud Kivu, en RDC, la Direction générale des impôts a saisi les comptes de l'hôpital du docteur Denis Mukwege, reconnu au niveau international pour son aide aux victimes de viol. Selon l'avocat de l'hôpital de Panzi, il est reproché à l'établissement de ne pas payer l'impôt. Nous entendrons son explication tout à l'heure dans les dossiers du jour.
Le Libéria a annoncé une suspension exceptionnelle du couvre-feu nocturne en vigueur depuis août dernier pour ne pas entraver les cérémonies habituelles pendant le réveillon du Nouvel An. La décision vise à permettre aux églises et aux communautés religieuses d'effectuer leurs prières et de participer à la messe de minuit, selon un communiqué du ministre de la Justice cité par l'AFP. Bénédicte Sano a invité les associations religieuses et les lieux de culte à respecter les mesures préventives contre le virus Ebola et toutes les règles édictées par le ministère de la Santé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Mahmoud Abbas a décidé la demande d'adhésion palestinienne à la Cour pénale internationale au lendemain du rejet d'une résolution palestinienne à l'ONU. Outre cette demande, qui permettrait de poursuivre des responsables israéliens devant la justice internationale, M. Abbas a signé 20 autres conventions internationales portant notamment sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Et le gouvernement israélien a convoqué l'ambassadeur français après le soutien apporté par Paris au projet de résolution palestinien qui vient d'échouer au Conseil de sécurité de l'ONU, rapporte l'AFP, citant Emmanuel Nachon, porte-parole de la diplomatie israélienne. Patrick Maisonave doit être reçu vendredi au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, a-t-il précisé.
Au Yémen, un attentat suicide a fait au moins 23 morts lors d'une réunion de rebelles chiites houthis dans le centre du pays. Les chiites célébraient l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed dans un centre culturel. Il y a eu également des dizaines de blessés, dont le gouverneur de la province, ainsi que des femmes et des enfants. Un premier bilan avait fait état de 33 morts. Personne n'a encore revendiqué la responsabilité de cet attentat.
Un drame évité de justesse. La marine italienne a pu secourir ce mercredi 31 décembre 970 migrants entassés sur un cargo à la dérive au large de l'île de Corfou. Des précisions avec Jacques Aristide.
Le Blue Sky M, battant pavillon moldave, a été abandonné par son équipage en mer Adriatique. Un signal de détresse avait été envoyé mardi au sujet d'un possible incident à bord. Les gardes-côtes italiens et grecs, de même qu'un hélicoptère, ont été dépêchés sur les lieux. 6 hommes montés à bord ont constaté que le navire était en mesure de continuer sa route sans aide. Ils l'ont ensuite ramené au port de Gallipoli, dans le sud-est de l'Italie. Rome a démenti l'information avancée par erreur par la Croix-Rouge, faisant état de 4 morts parmi les migrants, en majorité des Syriens. Un Moldave qui se trouvait à bord et qui serait l'un des passeurs a été arrêté. La marine italienne s'est félicitée d'avoir évité une hécatombe quelques jours après l'incendie d'un ferry grec au large de l'Albanie qui a fait au moins 13 victimes.
Les 2 premiers corps repêchés du site du crash d'Air Asia sont arrivés dans la ville de Surabaya en Indonésie où ils seront examinés par les médecins légistes. Les services d'urgence ont repêché 7 corps depuis la découverte de l'épave hier. Le vol 8501 d'Air Asia avait disparu dimanche en route vers Singapour avec 162 personnes à bord.
La population mondiale devrait dépasser 7,2 milliards d'habitants le 1er janvier 2015, demain, soit une augmentation de plus d'1% par rapport à 2014. De ces 7,2 milliards, plus de 320 millions vivent aux États-Unis, un pays où l'on projette une nouvelle naissance toutes les 8 secondes. Les 2 nations les plus peuplées restent cependant la Chine avec plus d'1,3 milliard d'habitants et l'Inde plus d'1,2 milliard.
Bonne année. Pour certains, le compte à rebours se poursuit pour le nouvel an alors que pour d'autres, comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est déjà 2015. Comment se passent les préparatifs mais aussi les célébrations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde? Eddie Isango.
Les coups d'envoi est parti de la Nouvelle-Zélande où une horloge géante sur l'emblématique tour d'Auckland a décompté les minutes mercredi soir, heure locale, jusqu'à la nouvelle année. 2 feux d'artifice ont suivi, lancés depuis la tour illuminée. Au Sydney, plus de 1,5 million personnes se sont massées par un temps chaud d'été sur les rives du port de la ville pour assister à un spectacle de feux d'artifice consistant en une danse harmonique de flammes aux couleurs d'or et d'argent sur des palmiers. Rio de Janeiro s'attend à plus d'un million de fêtards sur sa plage de Copacabana pour des concerts de rock sur 3 étapes. La célébration du Nouvel An de 2015 sera la plus importante aux États-Unis. New York s'apprête pour sa part à lancer sa boucle de cristal à minuit. Plusieurs centaines de milliers de fêtards sont aussi attendus pour l'événement annuel. Mais en Indonésie, par contre, Jakarta et d'autres villes ont annulé leur célébration du Nouvel An à la suite de l'accident de l'avion d'Air Asia dans les profondeurs de la mer de Java.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et à présent, la Minute Éco, c'est l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Nathalie.
Alors, économie au Togo. C'était la saison des récompenses pour les meilleurs hommes d'affaires.
Oui, et notamment avec l'institution de prix dans le milieu. L'initiative revient à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCIT. Elle ambitionne de promouvoir l'excellence dans le milieu des affaires. Je ne vous en dis pas plus. On écoute le président de la CCIT, Germain Meba, au micro de Caillou Lawson.
Nous visons la promotion de l'entrepreneur au Togo, car initier, c'est entreprendre. Et donc, si on entreprend, c'est créer la richesse pour ce pays.
Notons que 8 personnalités togolaises ont été primées. Le prix spécial d'homme d'affaires de référence a été attribué à M. Alexandre Aziabou.
Et le nombre de personnes s'inscrivant pour les allocations de chômage a augmenté ici, aux États-Unis, la semaine dernière.
C'est vrai, Nathalie, le ministère du Travail a annoncé 17 000 personnes en plus qui se sont rajoutées aux 298 000 personnes initiales, mais pas assez pour faire dérailler l'amélioration générale constatée sur le marché du travail. Le taux de chômage des États-Unis est de 5,8%, une baisse de près d'un point de pourcentage depuis le début de 2014. La prochaine mise à jour des chiffres sur le chômage aux États-Unis est prévue le 9 janvier.
Et on l'a dit tout à l'heure, Jean-Roger, la population mondiale est estimée à 7,2 milliards à compter du jour de l'an. Demain, le 1er janvier 2015, c'est en tout cas le bureau du recensement des États-Unis qui livre ces dernières statistiques.
Oui, Nathalie, la population mondiale aura donc connu une augmentation de plus de 1% par rapport à la même période l'année dernière. Le bureau estime que les États-Unis vont compter plus de 320 millions d'habitants. Notons qu'une personne naît toutes les 8 secondes aux États-Unis et l'immigration en destination des États-Unis est susceptible d'augmenter la population par personne toutes les 33 secondes.
Merci à vous Jean-Roger pour la Minute Éco.
Pour les sports, Bagassi courra au pas de course. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de la corrida de la Saint-Sylvestre de São Paulo au Brésil. C'était bien aujourd'hui.
Oui, et les athlètes éthiopiens n'ont pas manqué l'occasion de dominer cette 90e édition. C'est Dawit Admasou qui l'a emporté chez les messieurs et Imar Wedou Ayaliou chez les dames. Le duo éthiopien a mis fin donc à 2 ans de règne kenyan, mais a perpétué l'hégémonie africaine qui dure depuis 2011 pour les hommes et 2007 chez les femmes sur la plus grande course urbaine d'Amérique latine.
En cette période de trêve en Europe dans le football, il y a eu un match international amical.
Et c'était hier, le Paris Saint-Germain qui a battu donc l'Inter Milan 1-0 lors d'un match amical disputé au grand stade de Marrakech au Maroc. Le but parisien a été inscrit par Kabaye à la 57e.
J'espère, Bagassi, que vous avez de bonnes nouvelles en basket.
Oui, il faut signaler que Portland, deuxième de la conférence Ouest, est venu à bout de Toronto, leader de la conférence Est, 102-97. Hier soir donc au terme d'un match interminable, tandis que Kobe Bryant s'est fendu du 21e triple-double de sa carrière lors de la victoire de Los Angeles à Denver, 111-103. Les Spurs de San Antonio, vous parliez de bonnes nouvelles, privé de Tony Parker pour la 11e fois de la saison, se sont inclinés chérubins contre Memphis 97-95.
C'est une très mauvaise nouvelle en fait.
Ah, je ne savais pas ça. Et pour son 30e anniversaire, LeBron James a dû assister depuis le banc de touche donc à la défaite de Cleveland face à Atlanta 109-101. Golden State Warriors a battu Philadelphie 126-86. Défaite chérubin de Washington, 114-87 face à Dallas. Atlanta qui bat Cleveland, comme je le disais, 109-101. Utah a battu Minnesota, 100-94. Défaite de Chicago face à Brooklyn, 96-82. La Nouvelle-Orléans a battu donc Phoenix, 110-106. Et défaite d'Orlando Magic face à Détroit, 109-86.
On s'attendait qu'avec l'arrivée de LeBron James à Cleveland, que les Cavaliers brillent dans la zone Est, mais apparemment, l'équipe rencontre pas mal de difficultés.
Mais je crois que c'est tout un contexte. Il y avait ce trio à Miami et LeBron est parti sans Wade.
Oui, bien sûr, sans Wade et Bosch.
Et Bosch, du coup, LeBron ne peut pas les remplacer tous.
Il ne peut pas tout faire.
Il peut pas tout
Merci,
faire.
Merci, Bagassi Koura.
C'était le dernier journal de l'année.
Alors, bonne année.
Merci.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorcil en votre compagnie pour cette édition du 31 décembre 2014. À présent, place au dossier du jour.
Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail, PCT, parti au pouvoir, se dit favorable, Nathalie, à une modification de la constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016.
Et oui, une position qui aurait été adoptée lors d'une réunion du comité central du parti hier. Selon l'AFP, une déclaration officielle du PCT dans ce sens était attendue aujourd'hui. Et Timothée Nonangmaï a recueilli la réaction de l'opposant Guy-Romain Kinfoussia, président de l'Union pour la démocratie et la République, l'UDR Mouinda.
Ce parti qui est certes au pouvoir, mais qui n'a pas les prérogatives du pouvoir, vient de donner là un avis contraire à l'avis formulé par un certain nombre de partis, dont le mien. C'est une décision qui est tout à fait souveraine. Chaque parti a le devoir d'éclairer son opinion. Nous prenons acte de leur position, mais ça n'engage en rien la modification de la Constitution d'aujourd'hui. C'est une intention.
Vous dites que vous attendez en fait la position du président Denis Sassou Nguesso.
C'est lui qui est au pouvoir. Le parti, il est issu de ce parti, mais c'est un parti qui s'exprime comme le nôtre, hein. Nos positions sont contraires, mais voilà, ça n'engage pas le processus de changement de la Constitution qui, lui, est un acte du gouvernement.
D'aucuns disent qu'une Constitution peut être modifiée à condition que cela se fasse selon les normes juridiques. Qu'en dites-vous?
Tout à fait. Il est prévu en son sein, dans cette Constitution, le mécanisme de changement, avec cependant des verrous qui permettent à certains articles de ne jamais être modifiés. Et ces articles sont connus de tout le monde. C'est devenu une banalité. Il s'agit du nombre de mandats, qui est maximum de 2 mandats. Il n'y a pas 3 mandats prévus. C'est impossible. Et il s'agit également de l'âge du président, du candidat à la présidence en tout cas, qui est limité et borné à 70 ans. Monsieur Sassou en aura plus. Ces articles-là, ces dispositions-là sont non modifiables. Donc, les autres aspects peuvent être modifiés, bien sûr. On peut réduire, par exemple, la durée du mandat. Au lieu de le porter à 7 ans, on peut le ramener à 5 ans. C'est une modification possible.
De quels moyens disposez-vous pour empêcher une éventuelle modification de ces dispositions qui, selon vous, sont non modifiables?
C'est les moyens constitutionnels. Ils sont prévus dans le préambule de la même constitution. C'est la désobéissance civile. C'est un moyen tout à fait constitutionnel.
L'opposant congolais Guy-Romain Kinfoussia était joint à Brazzaville. Et dans l'autre Congo, la RDC, à Bukavu, dans le sud Kivu, la Direction générale des impôts a saisi les comptes de l'hôpital du docteur Denis Mukwege. Plus de 300 employés n'ayant pas reçu leur salaire ont fait un sit-in aujourd'hui devant la DGI pour protester contre la décision. Pour en savoir plus, écoutons Maître Patient Bachumbe, l'avocat de l'hôpital.
Oui, les comptes de l'hôpital de Bangui qui logent à la banque commerciale du Congo ont été confisqués, en fait, ont été pris, en fait, parce que la DGI ou la Direction générale des impôts a taxé d'office de l'hôpital de Bangui. C'était une taxation tout à fait illégale parce que l'hôpital de Bangui, un hôpital général de référence, tous les salaires des agents qui sont pratiquement des agents de l'État, ces salaires ou ces impôts sont retenus à la source. Mais finalement, au niveau local, la Direction générale des impôts s'est décidée de pouvoir gérer les comptes de l'hôpital et créditer le compte de la DGI au prix de toute la procédure.
Mais l'hôpital Panzi n'est pas un hôpital privé?
Ah, l'hôpital de Panzi, était un hôpital et mais qui a été introduit dans le système de santé national et donc dans le processus d'un hôpital de l'État, mais cédé au privé, cédé à la confession religieuse appelée CEPAC. C'est ici que l'hôpital de Bangui a introduit une plainte au niveau de la cour d'appel pour saisir la justice, afin qu'on puisse déclarer la main levée sur ses comptes. Et donc, de ce fait, il y a l'État congolais, il y a la DGI ainsi que la BCDC qui sont en train de comparaître par rapport à cette procédure. Mais malheureusement, contre tout toute attente et contre toute procédure, au lieu d'attendre que la Cour d'appel puisse se prononcer par un arrêt, ils ont de manière cavalière crédité les comptes de la DGI, du compte de l'hôpital de Pandi. Leur explication, c'est qu'eux disent que bon, l'hôpital reçoit les aides de l'étranger. Là, ce sont des soutiens. Donc, des soutiens, par exemple, si le docteur Mukwege a reçu, par exemple, un prix où on a donné une aide et il se dit, cet argent, je ne vais pas le consommer, il peut acheter des médicaments, il peut acheter de matériel, il peut donner une prime à certains agents qui ne touchent pas au niveau national, mais qui sont affectés par l'État congolais. Donc, en principe, c'est l'État qui paye les agents. Mais tous les agents qui ne sont pas mécanisés, ils peuvent percevoir juste une petite prime d'encouragement au niveau de l'hôpital.
Maître Patient Bashumbe était joint à Bukavu en RDC. Et nous continuons de tenter de joindre les autorités congolaises pour en savoir plus.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi 1er janvier 2015. Un coup d'œil dans le rétroviseur et ce qui peut nous attendre dans la nouvelle année. Un survol des grosses actualités qui ont marqué 2014 et qui risquent de faire toujours la une en 2015. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur VOA Afrique. Au nom de toute l'équipe, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé.
Concernant la République centrafricaine, Michel Diotodia et François Bozizé, deux anciens chefs d'État, ainsi que les représentants des milices anti-Balaka et de l'ex-coalition Seleka, sont en conclave à Nairobi au Kenya, une réunion pour tenter de renouer le fil du dialogue. Joint dans la capitale kenyane, Maître Lynn Banokepa, l'avocat de François Bozizé, confirme ses pourparlers et en situe les enjeux au micro de Félix Yepassi Zembro.
Effectivement, il y a un forum interafricain qui se tient à Nairobi depuis un certain nombre de jours, précisément 2 semaines, où nous avions été conviés, accompagnant le président Bozizé, je suis là, Michel Diotodia est là avec tout son staff. Les anti-Balaka sont arrivés, nous essayons de nous parler d'abord pour aller vers la résolution des conflits armés en Centrafrique.
Ce forum de Nairobi a lieu à l'initiative du médiateur international de la crise centrafricaine, le président Sassou Nguesso, est-ce exact?
Oui, c'est sous l'autorité du président Sassou Nguesso, médiateur international dans les crises centrafricaines. C'est vrai.
Les autorités centrafricaines semblent ne pas être associées à ces pourparlers. Qu'en dites-vous?
Ils sont vraiment d'utilité à résolution à ce conflit armé? Je ne pense pas. Puisqu'ils sont des politiques, le conflit est un conflit qui concerne les Seleka, les anti-Balaka, qui ont pris des armes, ce qui concerne les Antilles, les Seleka qui sont rentrés, qui ont violenté, les Centrafricains abusés, violés, pillés, les Balaka ont pris des armes rudimentaires et autres pour défendre la patrie et les compatriotes. Aujourd'hui, ces deux entités armées centrafricaines ont le droit de se parler avant que n'arrivent à la table les politiques, politiciens, politiciennes.
Maître, après Nairobi, François Bozizé et Michel Diotodia pourront-ils prendre part au forum de réconciliation nationale en janvier prochain à Bangui?
C'est tout à fait naturel. La solution et le retour à la paix n'a autre voie que l'inclusivité d'une réunion des centrafricains et inter-centrafricains, y compris tous les centrafricains politiques. Ils y seront, qu'on ne se perd pas en conjoncture ni en contorsion politicienne pour rien. Je rassure à mes compatriotes qu'ici, il n'y a pas de complot. Nous ne sommes pas une entité complotiste, mais nous œuvrons pour un retour à la paix. Nous voulons faire la paix des braves avec nos frères qui ont pris des armes.
Maître Banokepa, avocat de François Bozizé, joint par Félix Yepassi Zembro.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Afrique du Sud, les autorités ont mis en garde contre une recrudescence des violences contre les étrangers. Des membres de la diaspora africaine se disent être victimes de xénophobie. Des craintes qui surviennent au moment où un centre d'accueil pour réfugiés à Johannesburg a été contraint de fermer ses portes aujourd'hui. Plus de 500 personnes se sont ainsi retrouvées sans logis. Jacques Aristide a recueilli la réaction sur place du président de l'association African Diaspora Forum, Marc Gbafou.
Le vrai problème, c'est que le contrat du révérend qui les a pris en charge jusque-là finit aujourd'hui, le 31 décembre. Son bureau lui a dit qu'ils ne vont pas renouveler son contrat. Pendant plusieurs années, les autorités sud-africaines disaient que ce révérend garde les gens illégaux dans le pays. Et ils ont cherché par plusieurs moyens comment il fallait le chasser de là. Et donc, en le chassant, on chasse automatiquement tous ceux qui habitent l'immeuble.
Au-delà de cette nouvelle, en 2014, l'Afrique du Sud a durci ses lois sur l'immigration. En même temps, les autorités ont mis en garde en ce mois de décembre contre une augmentation des attaques xénophobes. 3 commerçants somaliens ont été tués en juin dernier. Pour certains, les étrangers sont devenus indésirables. Partagez-vous ce sentiment ?
C'est assez inquiétant. Ce moment, nous, on a pensé que le gouvernement sud-africain allait assouplir sa position, mais au fil du temps, nous voyons qu'il ne veut pas d'étrangers dans le pays. Des attaques xénophobes que vous avez suivies, pratiquement, ça s'est explosé en 2008. Nous, en tant que la diaspora africaine, on a voulu s'associer avec les autorités sud-africaines pour avoir le Forum social mondial sur la migration en Afrique du Sud, pour la première fois en Afrique. Mais on a été rejeté tout simplement. En Afrique du Sud, nous pensons que chaque jour que Dieu fait, il y a un migrant qui est attaqué, il y a un migrant qui est tué quelque part dans le pays. Il est bien vrai que les autorités ne veulent pas montrer tout ce qui se passe et aujourd'hui, les médias malheureusement aussi ne s'intéressent pas trop à ce qui concerne la migration. Mais les migrants sont confrontés à de vraies difficultés en Afrique du Sud, aussi bien au niveau des autorités que sur le terrain avec la communauté sud-africaine. Alors nous lançons un appel aux médias internationaux, aidez-nous à parler de ce problème, comme ça, ça peut nous aider à les régler. Parce que l'Afrique du Sud pense que comme les médias nationaux ne s'intéressent pas à ça, on ne saura pas publier, on ne saura pas parler de ça et donc notre cause ne sera pas attendue. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous, en tant que la diaspora africaine, nous remercions la Voix de l'Amérique pour tout l'effort que vous faites pour savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud et porter ça à la connaissance de vos auditeurs.
L'Ivoirien Marc Gbafou, président de l'association African Diaspora Forum, était joint à Johannesburg.
Just to wish you a happy new year. Kiss me pretty, kiss me pretty. When that ball drops.
C'est le dernier vol de 2014 du RM Express.
Dernier vol, ça c'est vrai. Et voilà, avec Kid Rock, hein, un grand chanteur qui nous souhaite tous un Happy New Year.
Bonne année.
Dans RM Show, on dit Bonana.
Bonana.
Ah bon, mais c'est seulement dans RM Show.
Et le pilote est comme toujours bien sapé. J'attends encore mon cadeau de Noël et ajouter à cela le cadeau du Nouvel An.
C'est fini Noël.
Mais moi j'en profite, hein, mes collègues, pour vous souhaiter vraiment une bonne année. C'était vraiment très super.
Merci
de vous avoir comme collègue cette année.
Année.
Et à tous nos collègues, hein, de VO Afrique.
Collègues, surtout les auditeurs aussi, hein.
Exactement, ils sont super.
Mes auditeurs.
Super. Merci.
Let's get out of this place, and I have faith in the coast that you clear. Say you love me, Happy New Year.
Et Et voilà, le monde aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Joselle Morissin. La console, c'était Kiss Holm. Avec vous, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Très bonne soirée à tous en compagnie de Roger Mountou.
Bonne année.
Bonne année
à tous. My place ain't too far. We can crawl on our knees.